Vous écoutez, on lit pour vous.
Un nouveau gouvernement fédéral pourrait abandonner l'entente sur l'enfance autochtone. Un texte de la presse canadienne, paru le 12 décembre 2024 dans Espaces autochtones. Un avis juridique demandé par l'Assemblée des Premières Nations, APN, prévient que l'entente de 47,8 milliards de dollars visant à réformer le système de protection de l'enfance des Premières Nations pourrait être caduque s'il y a un changement de gouvernement à Ottawa au cours de la prochaine année. L'entente avait été conclue en juillet dernier, après des décennies de plaidoyers et de litiges de la part des Premières Nations et d'experts qui cherchaient à remédier à la discrimination envers les enfants autochtones arrachés à leur famille et placés en famille d'accueil. Le Tribunal canadien des droits de la personne avait finalement ordonné au gouvernement fédéral de conclure une entente avec les Premières Nations. Mais lorsque les chefs ont rejeté l'entente proposée lors d'une assemblée extraordinaire en octobre, l'APN a dû s'efforcer de déterminer la suite des choses. La ministre des Services aux Autochtones, Patty Ashdou, a exprimé à plusieurs reprises sa déception face à l'échec de l'entente et a déclaré mardi que son gouvernement étudiait ses options. Le cabinet Fasken-Martineau-Dumoulin, qui a mené un examen juridique de l'entente pour l'APN, prévient qu'il n'y a aucune garantie qu'un nouveau gouvernement sera disposé à négocier ou à prendre des engagements similaires à ceux proposés par les libéraux actuellement au pouvoir. Citation. Cependant, si l'accord de règlement final, ou une version révisée, était approuvé et entré en vigueur, il constituerait un contrat juridiquement contraignant et exécutoire qui ne pourrait pas être modifié par un nouveau gouvernement sans le consentement des parties ou une intervention judiciaire et serait donc contraignant pour un futur gouvernement. Cela signifie que, tant qu'un accord contraignant n'est pas conclu, un nouveau gouvernement ne sera pas lié par les négociations qui ont eu lieu jusqu'à présent avec le Canada, y compris l'engagement de 47,8 milliards de dollars. Fin de citation, peut-on lire dans l'avis juridique du cabinet Fasken-Martineau-Dumoulin, daté du 15 novembre. Les conservateurs, qui mènent largement dans les sondages, n'ont pas répondu aux demandes répétées de commentaires sur leur intention de négocier ou non avec les Premières Nations ou s'ils s'engagent à respecter le montant de 47,8 milliards de dollars. Manque de consultation? Le Tribunal canadien des droits de la personne avait conclu que le sous-financement fédéral des services de protection de l'enfance était discriminatoire, car les enfants vivant dans les réserves recevaient moins de services que ceux vivant hors des réserves. Le tribunal a donc chargé le Canada de conclure une entente avec les Premières Nations pour réformer le système. L'accord devait couvrir 10 ans de financement pour que les Premières Nations puissent prendre en charge elles-mêmes leurs propres services de protection de l'enfance. Les chefs et les fournisseurs de services ont critiqué pendant des mois cet accord, affirmant qu'il n'allait pas assez loin pour garantir la fin de la discrimination. Ils ont également fustigé le gouvernement fédéral pour ce qu'ils considèrent comme un manque de consultation des Premières Nations lors des négociations et pour l'exclusion de la Société de soutien à l'enfance et à la famille des Premières Nations, qui avait pourtant contribué à lancer la plainte initiale devant le Tribunal des droits de la personne. En octobre dernier, lors d'une assemblée extraordinaire des chefs de l'APN à Calgary, l'accord a été rejeté par 2 résolutions. L'APN a demandé un examen juridique de ces résolutions et des conséquences potentielles d'un rejet de l'accord. Un ancien chef national de l'organisation, Perry Bellegarde, travaille comme conseiller spécial au sein du cabinet Fasken-Martineau-Dumoulin. Le même cabinet a également représenté l'APN dans la partie du recours collectif de la plainte pour atteinte aux droits de la personne contre le fédéral. Cindy Blackstock, qui dirige la Société de soutien à l'enfance et à la famille des Premières Nations et qui a contribué au dépôt de la plainte initiale devant le Tribunal des droits de la personne, a déclaré que les 47,8 milliards de dollars proposés n'ont jamais été garantis, car le financement était soumis à l'affectation de crédits parlementaires. Citation. Il s'agissait d'environ 4,7 milliards de dollars la première année, et nous verrons ensuite ce qui se passera après. Fin de citation, a-t-elle soutenu. elle a déclaré que le Tribunal canadien des droits de la personne, ainsi que les propres estimations du fédéral, fixent les coûts de la réforme à environ 45 milliards de dollars en chiffres réels, citation, « donc nous nous situons quelque part dans cette fourchette de toute façon ». Fin de citation. Citation, « et ce sont des ordonnances juridiques qui sont contraignantes pour tout gouvernement ». Fin de citation, a-t-elle soutenu. Le chef Joe Miskokomon de la Première Nation des Chippewas de la Thames dans le sud-ouest de l'Ontario, qui était un fervent partisan de l'accord, a déclaré qu'il pourrait être irrécupérable et que l'alternative serait de retourner devant le tribunal et d'espérer obtenir un jugement aussi expansif. Ou bien, a-t-il dit, les tribunaux pourraient décider que le Canada n'est tenu de payer que le minimum requis pour corriger le problème, en supprimant les fonds pour le logement et les autres avantages prévus par l'accord. Citation. Allons-nous vivre dans un monde imaginaire où il y a un puits sans fond, où le puits ne se tarit jamais? Il est assez évident que le chef du Parti conservateur a un programme qui ne reflète pas celui du gouvernement actuel. Fin de citation, a-t-il plaidé. Citation. Quel que soit le gouvernement qui sera au pouvoir et quelle que soit la cravate qu'il portera, nous devons lui faire comprendre qu'il y a toujours des ordonnances du Tribunal des droits de la personne qui doivent être respectées et nous insisterons pour qu'elles soient respectées au moins au minimum, conformément à la norme minimale à laquelle nous sommes actuellement confrontés dans le cadre des négociations sur le projet d'accord final. Fin de citation. Citation. Cela veut-il dire qu'il serait d'accord? Bien sûr que non. Fin de citation. C'était « Un nouveau gouvernement fédéral pourrait abandonner l'entente sur l'enfance autochtone ». Un texte de la presse canadienne paru le 12 décembre 2024 dans « Espaces autochtones ».
Judith Marchessault, « Soigner l'humain plus que lui donner des soins ». Un texte de Geoffrey Dira, paru en novembre 2024, dans le magazine Profession Santé. Judith Marchessault a dédié sa carrière aux soins à domicile auprès d'une clientèle en soins palliatifs. D'abord comme infirmière, toujours sur la route pour visiter ses patients, puis dans un bureau où, devenue gestionnaire, elle a fait preuve des mêmes qualités d'écoute, de bienveillance et de disponibilité que sur le terrain. Lorsque Judith Marchessault a appris qu'elle est la lauréate 2024 du prix Profession Santé dans la catégorie Vocation sociale, elle a d'abord été un peu gênée. « Je ne suis pas quelqu'un qui se met de l'avant », convient humblement l'infirmière. Après coup, elle s'est sentie honorée. « Ce prix, c'est un peu une approbation de ma carrière. Il vient valider tout ce que j'ai mis en œuvre auprès des soignés et des soignants pour qu'ils aient une meilleure expérience », considère celle qui a pris sa retraite en juin 2024. Pendant 3 décennies, Judith Marchessault a consacré sa pratique aux patients qui désirent finir leur jour chez eux, dans leur environnement, auprès de leurs proches. Un choix réfléchi et délibéré. Toute infirmière a l'ambition de prendre soin des autres. Quand on fait des soins palliatifs à domicile, on prend mieux soin des gens qu'en milieu hospitalier, car on a le temps de soigner l'humain, indique-t-elle, en insistant sur ce dernier mot auquel elle met un grand H. Notre but, poursuit la professionnelle, c'est de rendre la dernière partie de leur existence un peu plus agréable. On ne va pas les guérir, mais on peut avoir un impact sur leur qualité de vie et celle de leur famille. Les soins palliatifs à domicile nécessitent naturellement des compétences cliniques, mais le savoir-être est tout aussi important afin de se faire accepter dans l'intimité des gens. Quand le patient va à l'hôpital, il vient dans notre milieu. Là, on va chez lui. Et il faut pouvoir y revenir, souligne l'infirmière en précisant que cela ne va pas toujours de soi. On doit être agréable et savoir négocier. On travaille sur ce que le patient veut bien travailler. On choisit nos batailles. Parmi les autres qualités requises figure l'humilité, il ne faut pas trop se prendre au sérieux, l'ouverture d'esprit et la disponibilité. Pour être à l'écoute et bien s'occuper des gens, les journées ne finissent pas toujours à 16 heures pile, observe Judith Marchesseau. Elle ajoute que ça prend également du courage et de la détermination, car certains contextes personnels, familiaux et sociaux ne sont pas faciles à supporter. Une bonne Samaritaine. De la détermination, il lui en a notamment fallu au milieu des années 1990, quand l'infirmière intervenait auprès de patients atteints du sida. Les connaissances sur la maladie étaient encore très limitées. Des collègues étaient réticentes, mais c'était une population à servir comme une autre, estime Judith Marchesseau, qui, étant gay elle-même, s'est souciée de la communauté et a mené bataille contre l'exclusion des personnes homosexuelles à partir de ce moment-là. Lorsqu'elle est devenue infirmière-chef de l'unité de soins palliatifs à domicile de l'hôpital Mont-Sinaï, un poste qu'elle a occupé de 2011 à 2024, la professionnelle avoue qu'elle avait de la difficulté à rester derrière son bureau. « J'ai passé la majorité de ma carrière sur la route. J'ai dû changer mon chapeau », explique-t-elle. Après avoir pris soin des patients, la gestionnaire a donc pris soin de son équipe avec la même bienveillance. J'étais plus concentrée sur l'humain que sur la technique. Ma porte était toujours ouverte. Je soutenais mes infirmières cliniquement, mais surtout mentalement, afin de les rendre plus performantes sur le terrain et améliorer la qualité des soins offerts aux patients. C'était Judith Marchesseau, Soigner l'humain plus que lui donner des soins, un texte de Geoffrey Dira, paru en novembre 2024 dans le magazine Profession Santé.
Pour en finir avec la fraude en ligne, un texte d'Alain McKenna, paru le 26 décembre 2024 dans la presse. Imaginez un peu. Une transaction non autorisée a lieu. Votre compte est vidé. Mais voilà, votre institution bancaire vous protège et vous ne perdrez tout au plus que 50 $. Une utopie? Pas s'il s'agit d'une carte bancaire. Pourquoi les services en ligne sont-ils exclus? Au Canada, à moins que le détenteur fasse preuve de négligence dans la façon dont il manipule ses renseignements personnels, Visa, Mastercard, American Express et les sociétés partenaires d'Interac vont généralement le protéger d'une perte financière découlant d'une fraude liée à une carte de paiement. Évidemment, la réalité se lie souvent entre les lignes officielles. Par exemple, une transaction est jugée valide si le bon NIP a été utilisé. Cela laisse place à l'interprétation. Mais l'idée générale est que les banques assument la responsabilité de sécuriser leurs cartes de paiement. Les cartes de crédit et cartes débit qu'on utilise au quotidien ont été renforcées au fil du temps pour être de plus en plus difficiles à dérober, à trafiquer ou à utiliser à l'insu de leurs détenteurs. Il y a la fameuse puce sur les cartes de paiement. Il existe aussi, dans les bureaux des sociétés de crédit, un système mondial de détection en temps réel de cartes volées et clonées. Ce n'est pas parfait, mais ça prévient chaque année des milliards de dollars en fraude bancaire. Les institutions financières sous réglementation fédérale ne peuvent pas vous tenir responsable d'une transaction effectuée sans votre autorisation simplement parce que quelqu'un a utilisé un authentifiant pour faire cette transaction, indique l'Agence de la consommation en matière financière du Canada dans sa documentation relative aux cartes bancaires. Pas de magie. Ajoutons simplement les sites web et les services en ligne aux cartes bancaires couvertes par cette mesure et voilà, C'est la fin de la fraude bancaire. Problème réglé. Ceci aura été l'article le plus court jamais rédigé sur le sujet. Mais non, car rien n'est évidemment si simple. Après tout, les cartes de paiement sont un système fermé. Les banques et les sociétés émettrices travaillent de concert pour les sécuriser. Pour accéder à un site web, il faut un ordinateur personnel ou un téléphone sur lesquels les banques n'ont aucun contrôle. Des cas récents de vols d'identité impliquant des banques canadiennes l'illustrent. Des fraudeurs ont d'abord émis par milliers des faux courriels aux couleurs de certaines banques. Des gens ont cliqué sur un lien qui a mené à l'installation sur leur PC d'un logiciel espion, comme un enregistreur de frappe qui suit en temps réel l'entrée de texte au clavier. Plus tard, quand ces personnes se sont connectées au site de leur banque, les fraudeurs n'ont eu qu'à entrer en parallèle les mêmes données de connexion, nom d'utilisateur, mot de passe, code de vérification reçu par texto, etc., pour accéder au compte de leur victime. Qui doit payer pour ces fraudes? Les banques blâment les clients. Selon la définition d'une transaction valide citée plus haut, elles n'ont pas tort. Et pourtant, c'est la sécurité de leur site qui est inadéquate. Cette réticence des banques ralentit l'adoption du projet de loi C-26 sur la modernisation de la loi sur la protection des cybersystèmes essentiels et la loi sur les télécommunications. Son adoption rendrait obligatoire une meilleure gestion des systèmes de cybersécurité, au moins dans les industries qui sont jugées essentielles à la sécurité et à la santé économique du Canada. Ce projet de loi touche aux banques, aux télécoms et à l'énergie. C'est gros. Les entreprises seraient obligées de rapporter toutes les failles de sécurité, explique l'expert en renseignement et en sécurité, Steve Waterhouse. Les banques publient de très bons programmes de sensibilisation sur leur site Web. Elles estiment que ça suffit. L'information requise pour protéger leurs clients est disponible en ligne. Il n'y a pas de solution magique à la cyberfraude, conclut l'expert montréalais. Il préconise une approche basée sur la sensibilisation. Par exemple, obligeons les nouveaux téléphones et les nouveaux ordinateurs personnels à jouer une vidéo sur la cybersécurité quand on les allume une première fois après les avoir sortis de l'emballage. L'école et l'identité numérique. Renforcer la littératie numérique est de plus en plus perçue comme la meilleure façon de combattre ces fraudes qui ciblent souvent la distraction ou la méconnaissance du public concernant le numérique. À l'échelle internationale, le Canada arrive au 5e rang des pays qui font le mieux en matière de cybersécurité selon le palmarès Cyber Security Index de l'e-Governance Academy, un organisme de cybersécurité réputé. La Tchéquie, la Pologne, la Belgique et l'Italie font mieux. Le Canada se compare à ces quatre-là à tous les niveaux sauf un. L'absence complète de cyber-éducation à l'école primaire et secondaire. Un gros zéro pour le Canada dans cette catégorie. C'est important. Le Québec est à l'aube d'adopter un système d'identité numérique. Le dossier santé numérique s'en vient, et pourtant, on apprend sur le tas à naviguer dans le numérique, déplore Steve Waterhouse. Ça fait l'affaire des fraudeurs. Mais s'il faut apprendre à conduire une voiture, peut-être faudrait-il aussi apprendre à mieux se déplacer dans le monde numérique. C'était, pour en finir avec la fraude en ligne, un texte d'Alain McKenna, paru le 26 décembre 2024 dans La Presse.
Fin de la saga des cerfs du parc Michel Chartrand de Longueuil. Un texte de La Presse canadienne paru le 12 décembre 2024 dans Le Devoir. L'opération de contrôle de la surpopulation de cerfs de Virginie dans le parc Michel Chartrand de Longueuil est maintenant terminée. la seconde phase a permis de réduire le cheptel de 41 bêtes. Au total, 105 cerfs ont été abattus en vertu des limites du permis SEG pour la capture d'animaux sauvages à des fins scientifiques, éducatives ou de gestion de la faune octroyées à la ville par le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, MELCCFP. La ville vise à restaurer l'équilibre écologique du parc Michel Chartrand qui correspond à 5 cerfs par kilomètre carré, selon les données scientifiques. Nous poursuivons nos efforts pour favoriser le rétablissement de l'équilibre écologique du parc. Pour ce faire, nous continuerons de nous fier à la science et aux données les plus récentes, comme nous le faisons depuis le début de cette affaire, a déclaré la mairesse de Longueuil, Catherine Fournier, dans un communiqué de presse. Elle se dit optimiste que les résultats des études des chercheurs du projet Parc en santé, auquel la ville participe, contribueront à trouver une solution pérenne à la surpopulation de cervidés qui touche l'ensemble de la région. Même s'il s'agit de la fin de la saga aujourd'hui, nous avons la responsabilité d'agir à long terme pour éviter de revivre un tel scénario dans le futur, a affirmé Mme Fournier. Longueuil s'attaque désormais à la tâche de reboiser le parc. Plus de 600 arbres et 10 000 végétaux seront plantés l'an prochain. À terme, ce sont près de 100 000 végétaux composés d'arbres et d'arbustes qui reverdiront le parc Michel Chartrand conformément au plan de verdissement de la ville de Longueuil afin d'assurer une diversité écologique et fonctionnelle, précise-t-on dans le communiqué. Comme pour la première opération en octobre 2024, la viande de gibier a été donnée à Moisson Rive-Sud afin que l'organisme la distribue à des gens dans le besoin. La première phase avait permis d'offrir 12 850 portions de viande à Moisson Rive-Sud. Les bois et les pots des serres ont été revalorisés et envoyés à un regroupement de communautés autochtones dans l'objectif de créer des produits artisanaux. C'était fin de la saga des serres du parc Michel Chartrand de Longueuil, un texte de la presse canadienne paru le 12 décembre 2024 dans Le Devoir.
Frédéric, Radou, Rex et Hurricane, Quand les chiens flairent le grand amour, un texte commandité, paru le 15 décembre 2024 dans la presse. Certains trouvent l'âme sœur au supermarché, d'autres le font en swipant à droite. Pour Frédéric et Radou, c'est au parc à chiens que l'amour s'est pointé le bout du museau. D'une rencontre fortuite est née une belle petite meute. Lorsque Frédéric Tremblay a adopté une aussi doodle, elle l'a nommée Hurricane, un peu pour conjurer le sort. La jeune chienne éprouvait des ennuis de santé et sa maîtresse espérait qu'elle aurait une vie active malgré cela. Finalement, ce nom lui colle parfaitement au pelage. Yuri a une batterie sociale qui ne semble jamais se vider. Elle est infatigable, dit Frédéric. Elle fonce et vit sa vie au maximum. C'est lors de leur première sortie au parc à chiens que ce petit ouragan et sa propriétaire ont attiré l'attention de Radou Gartou. Hurricane n'était pas encore vacciné, alors Fred lui faisait juste apprivoiser le parc en se promenant autour de l'enclos, raconte l'habitué de l'endroit et papa de Rex, un berger allemand à poils longs. Un brin de jasette au-dessus de la clôture et l'étincelle était née. Une amie qui était avec moi m'a dit « Je pense que tu viens de rencontrer la femme de ta vie », ajoute Radou en riant. Frédéric avance une autre théorie. On dit souvent que c'est Hurricane qui a choisi son père et son frère dès qu'elle les a vus. Une communauté tricotée serrée. 4 ans plus tard, Frédéric et Radou sont les heureux parents des deux toutous, et d'un parfait poupon, âgé de quelques semaines seulement. Le parc à chiens et la communauté qui s'y est formée occupent une grande place dans le quotidien de la jeune famille. C'est devenu notre sanctuaire, affirme Radou. Le couple s'y est fait plein d'amis et de contacts. Des conseils sur le comportement canin, des questions sur les écoles du quartier, une infiltration d'eau à la maison. Il y a toujours quelqu'un dans le groupe qui a une réponse ou une ressource, dit Frédéric. Moi, je suis avocate, alors tout mon réseau, ce sont des avocats. Le parc à chiens est un endroit où je fréquente des gens de tous les âges qui travaillent dans toutes sortes de domaines différents, qui ont des styles différents. Ça me sort de ce que je connais, affirme Frédéric, propriétaire d'Hurricane. La trentenaire a vécu deux longs congés de maladie dans les dernières années. Ma bouée de secours, ça a été le parc à chiens. Au début, j'avais de la misère à marcher. Me rendre au parc à chiens, c'était comme l'objectif. Le clan s'apprivoise. Rex et Hurricane sont les deux chiens les plus différents sur Terre selon leur propriétaire. La cohabitation initiale n'a pas été de tout repos. Rex, c'est comme un vieux monsieur. C'est le chien le plus facile de l'univers. Mais il a ses petites habitudes, explique Radou. Aux côtés du canidé vieillissant, toujours prête à bondir sur lui, Hurricane est un tourbillon d'énergie. Ce qui n'empêche pas la bande de partir à l'aventure dès que l'occasion se présente. Grands amoureux de plein air et de montagne, Frédéric et Radou entraînent leurs compagnons canins dans leurs sorties en nature et leurs voyages. Un road trip de 3700 km à travers le Canada. Les chiens suivent en remuant la queue. Le berger allemand et l'Aussie Doodle ont donc vu les Rocheuses, ont gravi le mont Washington à plusieurs reprises, ont pataugé dans les eaux du lac Huron, se sont dégourdis les pattes dans les forêts du Vermont et ont d'innombrables escapades derrière le collier. Tous nos voyages sont planifiés en fonction qu'on puisse traîner les chiens, précise la nouvelle maman. L'équipée comprend maintenant un nouveau membre, mais a bien l'intention de continuer à élargir leurs horizons. C'était Frédéric Radou, Rex et Hurricane. Quand les chiens flairent le grand amour, un texte commandité, paru le 15 décembre 2024 dans la presse.